Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans la saison 6 dédiée à la conscience collective et ce nouvel épisode qui va traiter d'une chose bien particulière, d'un élément qui nous concerne tous, mais qui, pas que, qui concerne également nos aînés. J'ai nommé l'héritage multidimensionnel. L'héritage n'est pas uniquement l'argent, le pognon qu'on récupère quand ses grands-parents décèdent. Non, ce n'est pas uniquement une baraque dont on hérite et dans laquelle on va pouvoir passer ses plus belles vacances avec ses propres enfants à son tour, eh bien pour perpétuer une tradition familiale, ni même le lieu dans lequel on pourra faire les plus magnifiques cousinades, bien que cela puisse faire partie de cette idée. L'héritage multidimensionnel est beaucoup plus grand que ça, il est beaucoup plus complexe que ça, il est beaucoup plus important parce qu'il vous transcende, il vous dépasse, il sort de votre carcan mental. Il ne nous concerne pas que nous. L'héritage, c'est assez simple en réalité. En ce moment, par rapport à Les Doigts dans le Miel, là où on en est dans la saison 6, c'est que tout simplement, on s'attaque littéralement au modèle mental selon lequel nous sommes des personnes uniques. Nous sommes des êtres uniques, mais dans le sens singulier. Oui, nous sommes singuliers, nous avons une personnalité, nous avons une nature qui fait que nous sommes différents les uns des autres, nous nous ressemblons, mais toujours est-il que d'un certain point de vue, on se ressemble tous. C'est comme les Européens quand ils parlent des Asiatiques, ou bien les Asiatiques quand ils parlent des Européens. Je vous invite à découvrir Boulaymin, autrement appelé Chinois marrant, qui est un humoriste né en France d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, ce serait assez cocasse que je dise une grosse bourde là-dessus, puisque lui-même, eh bien, parle des Européens comme étant des hiboux. Voilà, vous avez tous des yeux de hiboux. Eh bien, c'est pas l'objet de parler de son spectacle dans cet épisode, mais je vous invite quand même à le découvrir. L'idée, c'est d'arriver à sortir de soi de telle sorte que l'on puisse prendre conscience que le collectif, c'est à la fois notre environnement social, les autres, les gens qu'on connaît, les gens de deuxième cercle, ceux que nos amis, nos familles connaissent et dont on peut entendre parler, ou encore ceux qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui sont des cercles plutôt de troisième degré, de troisième dimension. C'est-à-dire les gens avec qui vous êtes connectés au moins par l'intermédiaire de deux personnes, ce qui est déjà assez large. Et figurez-vous que sur un total de 6,7 milliards de personnes sur Terre, si on devait considérer cet à peu près comme étant exact, on serait à un degré de présence de 6 de chaque personne de la planète. Grosso modo, pour parler à tout le monde, à n'importe qui sur la planète Terre, il vous faudrait un maximum de 6 personnes pour l'atteindre. Imaginons votre voisin. Eh bien, vous ne le connaissez pas, mais votre papa le connaît, ou votre maman. Eh bien, disons que il vous faudrait une personne pour parler à votre voisin. D'accord ? Ça, c'est de degré 1. Eh bien, dans le monde, il faudrait en moyenne 6 personnes. Enfin, il faudrait un degré 6 pour parler à n'importe qui sur la planète. Alors, ça, c'est une manière d'envisager le social comme étant un réseau de nœuds, un réseau de liens, un peu comme une toile d'araignée, un peu comme les liens Internet. Vous avez peut-être vu ces représentations d'Internet avec des flux d'informations qui circulent de gauche à droite, de haut en bas, en long, en large et en travers, en fonction des adresses depuis lesquelles eh bien, des impulsions électriques sont envoyées, en fonction des appareils sur lesquels on se connecte pour envoyer ses emails. Eh bien, on est connecté grâce à ces choses-là. Seulement, ça, c'est ce qui se passe là, tout de suite, en ce moment. Mais il s'est passé quoi avant ? Il s'est passé quoi avec mes parents, avec mes grands-parents, avec leurs grands-parents à eux ? Il s'est passé quoi avec les personnes que je n'ai pas connues ? Il s'est passé quoi avec les personnes que je n'ai pas connues, qui auraient pu être des personnes de mon premier cercle, et qui sont de ma famille, donc d'un cercle proche ? Il s'est passé quoi avec les gens que je n'ai pas connus, qui auraient pu être d'un deuxième cercle ? Pourquoi pas les amis de mes grands-parents ? Il s'est passé quoi avec leurs amis à eux qui sont des personnes du troisième cercle et qui ont une influence sur mes grands-parents ? Il s'est passé quoi dans le temps, de telle sorte que les actions qui ont été entreprises à une époque donnée dans un environnement donné, ont eu des répercussions jusqu'à moi, aujourd'hui, et de manière collective, rayonnante, qui fait que aujourd'hui, j'ai en ma possession un héritage qui me vient du passé, du présent, et que je suis en train de transmettre au futur. Donc que je continue de faire évoluer, de faire vivre. Il y a la mémoire émotionnelle. Par exemple, une période de guerre va marquer très fort l'état d'esprit d'une famille. Ou une période de guerre financière, une période de guerre psychologique, une période de guerre avec des conflits armés. Une période de disette, à un moment où on a faim. Ça peut se transmettre. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer sous forme d'anecdote. C'est une petite fille qui demande à son papa, « Dis papa, pourquoi est-ce qu'on coupe tout le temps les deux bouts du jambon pour le mettre dans la poêle ?»« Ah bah je sais pas, demande à ta grand-mère, elle saura te répondre. » »« Dis mamie, pourquoi est-ce qu'on coupe toujours les deux bouts du jambon avant de le mettre dans la poêle ?» Et la grand-mère lui répond calmement, « Bah écoute, on a toujours fait comme ça. » Mon père le faisait avant ton père. Va lui demander. Et la petite fille, elle arrive à côté de son arrière-grand-père, qui est sur son fauteuil. Et elle lui demande. Dis grand-papi, pourquoi est-ce qu'on coupe toujours les deux bouts du jambon avant de le mettre dans la poêle? Et le papy regarde sa petite fille. Il regarde de loin sa propre fille et son petit-fils qui s'affairent en cuisine. Il rigole et il répond à sa petite-fille du coup. Ah bah ça, à ton avis, sinon le jambon il rentre pas dans la poêle. Vous voyez, c'est assez farfelu. Alors bon, ça me fait marrer tout seul. Je vais avoir l'air bien drôle quand vous écouterez cet épisode. Mais c'est assez rigolo de voir à quel point on est marqué par ce qu'on nous apprend comme une forme de vérité absolue de laquelle on ne sort pas. On oublie même les origines des choses que l'on a mis en place parce que tout simplement c'est devenu une habitude et que cette habitude est transmise. Alors, que ce soit des habitudes en cuisine, que ce soit des habitudes liées à un rythme de vie, des habitudes financières, des habitudes amoureuses, il peut y avoir des parents qui sont très ouverts, libertins, il peut y avoir des parents qui sont très instables, mais en même temps qui sont stables dans leur instabilité, c'est-à-dire qu'ils enchaînent les conquêtes comme ça, mais toute leur vie, ou alors qui restent, avec un modèle familial, entre guillemets, idéal, c'est-à-dire le père et la mère qui restent ensemble toute leur vie et qui éduquent leurs enfants, qui vont à leur tour vivre avec la même personne toute leur vie, ce sont des traditions qui sont perpétuées et qui, parfois, peuvent avoir du mal à vivre dans un environnement plus moderne parce que les habitudes, les mœurs évoluent, les comportements changent, les personnes développent de nouvelles pratiques. Et ça peut venir en conflit ou en complément de ce qui existe déjà. Néanmoins, c'est là qu'arrive l'héritage multidimensionnel, parce que cet héritage, ce n'est pas quelque chose qui est remis en question, c'est quelque chose qui fait corps avec vous, dans le sens où c'est votre point de repère, c'est le plus profond. Si on vous a partagé des habitudes financières très précises, c'est peut-être parce qu'il y a deux générations, des membres de votre famille ont beaucoup souffert de ne pas les avoir. Que pour changer le cours des choses, à leur époque, à un moment donné, elles se sont dit « il faut absolument que ça change ». Donc on avait adopté un autre comportement, et ce comportement a été transmis de manière très rude à vos parents, qui à leur tour, vous l'ont transmis à vous. Peut-être que ça aurait été une manière de faire à manger, de profiter de la vie de tous les jours, d'économiser de l'argent, de surtout pas s'endetter, de dire que le commerce c'est mal, de dire que l'argent, c'est mal, L'argent, c'est pour les vilains. Les riches sont mauvais, par exemple. On en revient à ce qu'on disait en saison 4 et 5, notamment avec le pouvoir financier, avec la thérapie monétaire, l'esprit millionnaire, réfléchissez à devenir riche. Ce sont tout un tas de bouquins qui ne peuvent exister que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépenser absolument tout ce qu'ils ont à chaque fois qu'ils ont de l'argent sur leur compte en banque, et parfois même plus. Ce sont des choses, pour le coup, que j'ai vécues. Ça, je peux vous le partager en tant que vécu personnel. Et ça fait partie des sujets que je peux insuffler dans le podcast parce que, du coup, je trouve des solutions, des parades, et j'essaye de remonter à la cause de ces soucis. Alors, la première cause, c'est moi. Ça, c'est aussi un héritage. C'est toujours les autres. Il y a des pays dans lesquels on assume ses responsabilités plus que dans d'autres. Eh bien, en France, même si on finit par accepter, parfois, pas toujours, que c'est nous le responsable, d'abord, ce n'est pas la première réaction. On se plaint, on attend que quelque chose soit corrigé. On ne fait pas les choses pour qu'elles bougent. On ne va pas chercher. On n'est pas proactif. Je regardais par exemple un reportage sur un milliardaire il y a à peine quelques heures dans la journée dans cet après-midi. C'était absolument incroyable. L'abnégation dans laquelle il se trouvait à pouvoir... C'était quasiment une forme d'abnégation en réalité, oui, c'est ça. C'est la capacité qu'il avait de prendre des décisions pour absolument tout ce à quoi il était confronté dans sa journée, de telle sorte que rien ne soit délégué au lendemain, qu'absolument aucun moment de procrastination n'intervienne dans sa journée. Mais ça aussi, ce sont des habitudes. Ça lui permet d'être dans une hyper-exécution qui fait qu'il peut enchaîner des rendez-vous et son business, et son développement familial, et son développement personnel, et son développement avec ses amis, et perpétuer aussi une forme de tradition. C'est un quotidien parmi beaucoup d'autres. C'est vrai que c'est une personne qui a une journée très remplie. Il a été éduqué comme ça, et il s'est construit comme ça. Et il contribuera à partager cet héritage qui lui vient d'avant et qu'il construit en même temps pour la génération future. Il y a donc au moins trois dimensions à cet héritage. D'une part, elle est humaine. Les modèles mentaux individuels, collectifs et sociétaux. D'autre part, elle est temporelle. Cette histoire de génération, cette histoire d'histoire. Et troisièmement, je dirais qu'elle est sensitive. Et là, je voudrais appuyer par rapport au côté humain qui intègre cette dynamique, mais par rapport au côté individuel, collectif et sociétal. Dans le sens où le côté sensitif revient à la notion de socio-perception, de transformation humaniste qui opère en ce moment grâce à une nouvelle technologie de l'information et de la communication, en tout cas depuis bientôt 30 ans maintenant, mais qui commence à se sentir vraiment très fort, qui fait qu'il y a des conflits aussi générationnels, qui fait qu'il y a de la friction dans les entreprises, qui fait qu'il y a du mal-être qui est ressenti, qui fait qu'il y a beaucoup de points de rupture en ce moment, de décrochage, dans le milieu du salariat, autant que dans le milieu de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a un côté beaucoup plus émotionnel, socio-perceptif, lié à notre capacité à ressentir et à prendre en considération les autres, parce que notre nature féminine peut s'exprimer aujourd'hui plus qu'elle ne le faisait ces dernières décennies. On vit dans un monde où c'est la culture de l'homme qui domine, qui a le pouvoir, qui existe depuis 5000 ans, au moins, pour ne parler que de l'histoire. On pourrait remonter à la préhistoire, que ça irait encore plus loin. Et pourtant, dans chacun des modèles qui ont été mis en place à travers le monde depuis des millénaires, il y a en permanence un système fond-forme qui fonctionne à la fois dans la forme, et bien sous l'expression du modèle de l'homme comme dominant, et celui-ci, autant que la femme, porte tous deux un aspect masculin et un aspect féminin, qui sont le côté donner et recevoir. Et notre capacité à être connectés en permanence les uns aux autres, de manière instantanée, avec en plus un travail de fond qui vise à promouvoir la place de la femme dans la société, comme une revanche, comme une capacité à prendre la parole, à être entendue, favorise l'émergence de ce côté féminin à très grande échelle, avec des répercussions, eh bien oui, planétaires, bien que cela n'affecte pas beaucoup les très hautes sphères du pouvoir, qui restent essentiellement prises, occupées par les hommes. Et je prendrai par exemple le top 50 des CEO les préférés dans le monde, les plus influents dans le monde et préférés. Cette année comme l'année précédente, il n'y a même pas 5% de femmes. C'est ridicule. Et ce sont des hommes et des femmes qui votent. Donc il y a une contradiction profonde entre les hautes sphères du pouvoir, la manière dont le monde est gouverné, piloté, dont la géopolitique évolue, avec les institutions de mi-sphère qui ont vocation à faire s'exprimer tout un tas de communautés professionnelles, instruites et éduquées selon les principes, je dirais, scolaires, partagées de manière semi-universelle, et qui ne sont pas non plus les modèles mentaux diffusé, propagé par les classes ouvrières et les classes sociales basses, où l'homme, à nouveau, au même titre que dans les hautes sphères, est plus souvent dominant, pas forcément dans la famille où la femme peut occuper une place très forte, mais plutôt en lien avec le travail. En lien avec l'argent. En lien avec le pouvoir. Chacun sa place, et même si ça évolue, eh bien, il n'empêche que depuis des siècles et des siècles, ce que vivent nos aînés est transmis à leurs enfants, qui nous arrive petit à petit. Nous le transmettons également. Il y a des sujets, des choses que nous ne sommes pas capables de voir, ni même de percevoir, ou encore, si tant et si bien que nous pourrions en avoir l'intuition, nous n'avons pas forcément les yeux suffisamment rivés sur le bout de notre nez pour être capables de l'entendre, de l'écouter. C'est-à-dire qu'est-ce que je vois mais que je n'écoute pas, et que pourtant je ne peux m'empêcher d'exprimer en permanence. Par rapport à tout un tas de modèles mentaux et d'habitudes qui ne sont qu'un héritage multidimensionnel provenant des trois dimensions du modèle mental, individuel, collectif, sociétal, de la dimension temporelle, le passé, et du coup, je vais dire plus généralement dans l'espace, d'ailleurs, ce serait une meilleure correction dans le sens où c'est à la fois temporel et géographique, donc ça serait géospatial. et sensitif, avec une capacité à ressentir, sentir, vivre ses émotions et autant que sa spiritualité. Dans la recherche de son être et de son quotidien. Pour le coup, ça devient vite compliqué de vouloir faire la part des choses entre j'ai le choix, je me décide à faire à passer à l'acte, pourquoi faire et à partir de quoi. Parce que finalement, si je ne comprends même pas que dans ma réaction, qui peut être tout à fait justifiée, je subis en réalité tout un tas de modèles mentaux du passé auxquels je ne fais que répondre par effet ricochet dans le temps et qui ont conduit déjà à de nombreux échecs, voire des réussites, eh bien en réalité je ne contrôle absolument pas par un quelconque libre arbitre mon droit au choix puisqu'il découle lui-même de tout un tas de préceptes moraux, mentaux, psychologiques et sociaux guidés par des générations et des générations de passeurs du temps, j'ai nommé nos parents. Que ce soit comportemental, du coup psychologique, sociologique, limité anthropologique, quasiment mathématique, finalement. Notre arbre généalogique n'est pas uniquement celui que l'on pourrait dessiner par rapport à notre lignée. Il est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est... je vous invite à découvrir l'arbre des mondes, ou alors l'arbre des mondes, plutôt l'arbre de la vie, que vous pourrez repérer parce qu'il a une forme de cercle avec un tronc relié eh bien, autant à la surface qu'à la sous-face du sol dans lequel il est intégré. Je vous invite également à lire Richard Powers et l'arbre monde qui explore à sa manière le drame écologique que nous vivons en ce moment mais qui ne s'arrête pas simplement à une représentation du monde selon la nature mais qui va aussi plus loin. Il y a un côté très, très spirituel dans son approche où on peut se projeter en tant qu'écologie du monde également, en tant qu'humain. Je vous invite à lire Chronos, l'Occident aux prises avec le temps de François Bartog, qui est un livre absolument fantastique, parce que le Chronos était un des titans dans la mythologie grecque. Chronos est une représentation d'un des modèles mentaux les plus puissants que nous avons jusqu'à notre époque, malgré les siècles et les siècles qui nous séparent de son apparition dans les histoires et dans les écrits. Et bien tout simplement parce que Chronos n'est qu'une allégorie de la domination de l'homme et le temps parce que c'est une dimension très particulière à laquelle nous faisons face puisque notre présent, notre passé et notre futur sont tous trois imbriqués comme si c'était un triptyque, c'est-à-dire un tableau en trois œuvres, alors qu'en réalité, il n'y a que les choses qui se passent. Nous ne sommes déjà plus notre passé, que nous ne sommes pas encore un futur qui est à la fois incertain et pour l'instant inexistant. Aussi, il n'y a que des moments à vivre qui sont présents, mais notre cerveau nous joue des tours en nous rattrapant très très vite et nous rappelant que si nous avons des modèles auxquels nous fier, qu'ils ont été éprouvés puisque nous avons performé pour exister jusqu'à aujourd'hui, du point de vue de notre lignée autant que du cheminement de la vie, je vous invite à écouter l'épisode précédent, et que c'est pour ça qu'on doit s'y rattacher, parce que le semi-confort du changement dans lequel nous a plongé à cette époque-là, eh bien, nous a permis de survivre, tout simplement. C'est là où on peut se pencher vers Siddhartha, que je vous invite sincèrement à découvrir. Alors, je vous avoue que je ne peux pas beaucoup en parler parce que je commence seulement à lire cet ouvrage, qui est un petit ouvrage. Je vous en dirai plus dans quelques jours, probablement, quand je l'aurai terminé. mais un ouvrage absolument fantastique, pour aller beaucoup plus loin que cette notion de dualité, que cette notion de fond-forme, que cette notion de bien ou mal, que cette notion de noir ou blanc, que cette notion de passé, présent, futur, plutôt avec la vocation de vivre pleinement et de manière intégrée à toutes les dimensions en même temps. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que l'on peut avoir ce choix de se rattacher au divin, à Dieu, peut-être que vous êtes croyante ou croyant, vous qui écoutez le podcast, peut-être pas, vous avez certainement vos raisons dans un sens comme dans l'autre, et peut-être que tout ça n'est qu'une combinaison d'éléments qui de toute façon ne vit que de manière intégrée, et l'une par rapport à l'autre, et par rapport à d'autres formes de croyances. Je vous ai déjà un petit peu parlé de phénoménologie, sur laquelle on reviendra d'ici une quinzaine d'épisodes, puisque l'étude des phénomènes, la science des phénomènes, a conduit à la science de la divinité, à la science du divin plutôt, parce que les philosophes, les personnes qui ont réfléchi à l'étude des phénomènes, à la science des phénomènes, pour se rapprocher au maximum de ce qu'est la réalité, n'ont pas trouvé d'autre manière dans leur évolution de pensée, et ça s'est fait de manière transgénérationnelle également, c'est une succession de décennies qui se sont enchaînées pour faire vivre tout un mouvement, un courant, eh bien, ça n'a débouché, entre guillemets, que sur la théologie, qui est devenue une réponse divine à l'étude de la réalité à cause de son caractère transcendantal, c'est-à-dire partagé par un grand nombre d'éléments qui se dépassent les uns par rapport aux autres. Au même titre que vos arrière-grands-parents et leurs arrière-grands-parents avant eux vous dépassent largement. Et là, on peut parler de transgénérationnel, de modèles mentaux transgénérationnels. C'est un exemple. L'aspect transcendantal étant une dynamique, je veux dire, c'est l'équivalent du transgénérationnel, mais sur beaucoup plus d'éléments, répartis sur beaucoup plus d'éléments. Donc l'héritage multidimensionnel, c'est celui-là. La difficulté étant que, en tout cas à mon sens, et tel que je peux le penser aujourd'hui, étant d'arriver à faire au collectif, non pas comme un ensemble d'individus purement interdépendants, qui n'ont que de responsabilités que la leur et d'honneur que celui d'exister, mais de vivre en harmonie et en équilibre avec les autres, cependant pas sans effacement de l'ego, qui nous permet justement cette forme d'honneur et de résister à la pression de l'effacement, parce que nous avons une personnalité et elle vaut la peine d'être exprimée par sa singularité, ce que je disais tout à l'heure, parce que justement c'est ce qui fait notre différence, c'est notre capacité à penser, à agir en conséquence. C'est une manière de se projeter en tant que citoyen et de se dire « Je ne peux peut-être pas que exister en tant qu'individu, mais en tant que partie intégrante d'un collectif qui me dépasse et qui, pour le coup, me transcende. » Mais pas du tout comme si on était un ensemble d'individus, mais véritablement une forme d'équipe. Et c'est comme ça que les équipes existent, c'est comme ça que les communautés existent. Je vous invite à lire Michelle Obama aussi sur le principe des communautés, ou encore Alice Zaghouri, qui est une personne influente de l'écosystème entrepreneurial en France. Je vous invite à lire, à découvrir ce qui est écrit et raconté sur les tribus, les communautés, que ce soit les communautés noires, les communautés blanches, les communautés indiennes, les communautés asiatiques, les communautés... Puis on peut toujours affiner, ramifier les communautés en sous-communautés, en sous-sous-communautés, etc., qui forment elles-mêmes ensemble des communautés par rapport à d'autres communautés. Parce que ensemble, ce sont des bulles qui fonctionnent sous forme d'équipe et que c'est dans cette manière de concevoir le collectif que l'on peut réellement s'émanciper collectivement pour vivre son plein potentiel. Parce que un ensemble d'individus individualistes mis dans un écosystème pour le faire fonctionner ensemble n'arrivera jamais ni aussi loin, ni aussi fort, ni aussi puissamment, ni avec autant d'inertie qu'un ensemble d'individus, non pas individualistes, mais vivants, co-créants, en tant que coéquipiers, pour un avenir commun, meilleur. En sachant que dans chacune de ces représentations, qui est au final très dichotomique, très blanc ou noir, comme je le disais tout à l'heure, et comme je ne voulais pas l'interpréter, c'est là où c'est la grande difficulté, c'est que, en réalité, pouvoir concevoir un système et c'est pouvoir concevoir son opposé. À partir du moment où quelque chose existe, son contraire peut prétendre à exister. À partir du moment où vous faites du bien à quelqu'un, c'est que vous pouvez lui faire du mal. La difficulté, le challenge continue, en tout cas auquel je peux faire face en ce moment, c'est d'arriver à concevoir de manière intégrée chaque action qui peut être faite en quotidien comme ayant la capacité d'apporter exactement son contraire sans empêcher potentiellement le résultat désiré. Puisqu'encore une fois, on en revient à cette notion de performance qui est la capacité à cheminer de la vie, donc à survivre, et qu'à chacun sa manière d'exprimer cette solution. Alors je vous invite à me partager votre point de vue à ce sujet, puisque l'héritage multidimensionnel est en réalité très lié à cette notion de performance, parce que survie oblige, et qu'il est beaucoup lié au cheminement de la vie, également à la loi de la vitesse d'innovation qui était l'épisode 278. Nous sommes à l'épisode 284, donc c'était encore tout frais, tout jeune, tout récent. Qu'il est très lié au voyageur du temps, 275, qu'il est très lié au palier visible du progrès, 261, qu'il est très lié à l'accroissement de sa zone de confort, 252, et bien sûr à l'ensemble du podcast, puisque tout cela évolue sous la forme d'un fil rouge aux teintes de miel. Alors je vous invite, oui, à partager vos idées, vos pensées, vos réflexions, et à les communiquer sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel, que ce soit par écrit, sous l'illustration du post correspondant au numéro d'épisode, bien sûr la page Les Doigts dans le Miel, ou à me le communiquer en vocal, ou en écrit en message privé. Et je vous invite également à picorer, bien entendu, dans les épisodes existants, puisqu'il y en a aujourd'hui 284, et bientôt un de plus, c'est-à-dire dès demain, direction l'ultime gardien, qui ne sera que le dernier rempart à la manière des remparts de Troie face à, je dirais, l'adversité. Alors tentons d'être une fois de plus un peu subversif dans le but d'inverser un système complexe, matriciel, comme une réponse non préprogrammée mais préprogrammée du coup, à un passé particulier. C'est Pierre. Les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.